Bon, on sait que... D'abord, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Mais faire preuve de politesse.
Allô.
Allô. On sait que de faire préparer ses repas à l'extérieur ou encore de recevoir les ingrédients, de les faire à la maison, c'est très, très populaire. Il y a quelques entreprises qui offrent ces services-là. Et ce matin, tu nous parles du marché Good Food, donc. Et on va dépasser, là, juste, comme on dit, le simple niveau des abonnements.
Oui, parce que le nombre d'abonnés augmente et là, les marchés s'emballent. Aussi, hier, du titre de 8,47%. Que le titre, quand même, il y a quelques mois, était déjà plus élevé que le prix actuel. Mais c'est fascinant comment les analystes financiers s'excitent à dire « Hey, les gens, il y a plus d'abonnés au marché Good Food, donc ça va bien, on achète le titre. » Mais quand on y pense, d'un point de vue homo economicus, et Paul, tu sais comment je suis proche de mes calculs.
Ben ça.
Allez chez marché Good Food, t'as commandé chez vous une boîte qui va t'être livrée, pesée par quantité, qui va être mesuré pour une recette. Donc, du clé en main, livré à la maison, ça ne peut jamais être moins cher que l'épicerie. Et ça, il y a des gens qui essaient d'argumenter ça, mais c'est impossible. Parce que toi, en te déplaçant à l'épicerie, puis en faisant ta commande toi-même, tu t'enlèves des coûts qu'eux doivent assumer. Et eux veulent une marge de profit supplémentaire aux fournisseurs. Donc, marché Good Food fait de l'argent au niveau des ventes, mais ne fait pas de profit. Si je te donne un exemple. Si tu achètes deux recettes, quatre portions, ben ça va te coûter 94$ pour deux repas de quatre personnes à la maison. C'est quand même pas donné. Évidemment, là, on dit « Oui, mais on augmente le nombre d'abonnés. » C'est sûr, au début, ils sont gentils. Tu sais, la première boîte, t'as 40%. Puis si tu t'abonnes à l'infolette, on te donne des repas gratuits. Donc, on encourage quelqu'un à l'essayer. Ça, c'est une bonne stratégie. Il y a des gens qui l'adoptent et c'est ça qu'on voit. Mais quand on regarde les états financiers, « Et Paul, malgré toute la recette du monde, malgré l'engouement, malgré Anne-Marie Wittenshaw, qui fait la promotion de la compagnie en disant « Je suis une maman et moi, je suis pressé, alors Good Food m'aide. » Oui, mais les états financiers parlent, Paul. Et quand on regarde le revenu d'un trimestre, 22 millions de revenus, 5,2 millions de marge brute, mais tu as 6,6 millions de frais de vente et d'administration. Ce que ça dit en français, c'est qu'une fois qu'on a vendu plus cher que ça nous a coûté les boîtes, on bouffe toute la marge en frais de vente et d'administration. Ajoute après ça les autres frais financiers. Donc, tu trouves que pour un trimestre, tu as perdu 1,5 million et pour 9 mois, 6,5. Donc, pour que ça fonctionne, ça va prendre du très gros volume. Ça va prendre des clients qui sont prêts à payer cher sans avoir de rabais. Ça va prendre des marges. Et là, pour l'instant, le titre a fait une bonne performance sur un an, 38%. Mais contrairement à d'autres compagnies, faut que ça soit régulier. Ça veut dire que malgré l'engouement qu'il y a, malgré la hausse du nombre d'abonnés, malgré qu'on dit qu'aux États-Unis, il y a encore de la place, donc au Canada, on devrait être capable de vendre plus, faut que tu convainques monsieur, madame, tout le monde de remplacer quelques fois par semaine ou totalement des repas par cette formule-là qui est dans le fond une façon de te déculpabiliser. Tu fais pas l'épicerie, tu fais pas de la cuisine, mais là, fais cuire simplement les aliments qu'on te donne, juste mettre ça dans le poêle et c'est fini. Donc, c'est comme une façon de faire cuisiner le monde. Et si c'est pour faire cuisiner les gens, Paul, tant mieux. Mais au niveau business, au niveau placement, pour qu'un repas individuel soit plus rentable qu'aller à l'épicerie, c'est difficile avec les gens, dès qu'ils vont avoir une crise économique, dès qu'ils vont avoir des besoins financiers, c'est dans le genre de budget-là qu'on peut couper.
OK. Ce que tu dis, dans le fond, c'est peut-être populaire, mais pas assez pour que ça soit payant.
Pas pour l'instant.
Pas pour l'instant.
Faut que tu mettes beaucoup de pubs et beaucoup de frais, okay, pour vendre tes boîtes.
L'engouement pour les véhicules électriques.
Ouais, on nous parlait de ça dans la presse, on en parlait, on dit « Ah, on a vendu plus de véhicules électriques, moi j'aime bien les mathématiques. » On dit « Oui, mais on a vendu vraiment beaucoup plus de véhicules électriques l'année passée. » Bon, moi je suis allé voir le nombre de véhicules vendus. Tu sais, au Québec, là, on vend à peu près, là, pour un mois, comme juin, on a vendu environ 44 000 véhicules neufs, OK? Mais pour un trimestre, on a vendu 4 000 véhicules électriques, donc pour trois mois. Ce qu'on va dire, c'est que les véhicules électriques sur un an, c'est quoi? 10-12 000 ventes au Québec, mettons, si la tendance se maintient. Puis au Québec, on a 400-500 000 véhicules neufs. Et quand on parle de véhicules électriques, ça comprend les hybrides. Donc, on pourra pas dire que le Québec a viré au vert. Là,
non, ça c'est sûr.
Et il y a une question de coût. Mais il y a quelque chose qui est intéressant pour le Québec, c'est la balance commerciale. Tu sais, le matin, Paul, on parle souvent des pétrolières. On parle souvent du prix de l'essence qui augmente de façon totalement arbitraire. Ce qui est le fun avec le prix de l'essence, c'est comme la température. C'est une fois qu'on l'a vécu qu'on nous explique pourquoi. Tu sais, si la marge de raffinage augmente, pourquoi vous ne nous le dites pas une semaine d'avance? On va tanker notre char. Donc, ça fait en sorte que le Québec pourrait réajuster sa balance commerciale. Plus les gens vont avoir des véhicules électriques, plus ils vont surtout vivre proche de leur travail, vont stopper l'étalement urbain, moins on va consommer, et plus ça va nous aider en tant que province sur notre bilan économique et énergétique.
Mais tu vois, je disais ce matin qu'un des problèmes, là, au-delà du coût, là, c'est vrai que c'est plus cher, c'est la disponibilité des véhicules. C'est-à-dire que quand tu veux acheter un véhicule électrique, puis c'est comme n'importe quoi, tu veux l'avoir le plus vite possible. Or, c'est pas toujours aussi clair que ça.
Ben Paul, sans vouloir faire de l'autopromo, à l'Indice Maxwin, une première émission, on a fait ça. On est allé s'acheter un véhicule électrique. Et tu sais quoi? Le gars voulait pas nous en vendre un.
Parce que?
Le gars, il dit, hey, achète-toi un char à essence, puis dans 3-4 ans, c'est un homme au revoir. Non, il connaissait pas ces véhicules. Tu sais, le gars connaît pas vraiment ça. T'arrives avec les specs, t'y connais plus que lui. Deux, il veut pas vraiment te le vendre, parce qu'il n'y en a pas tant disponible que ça, probablement en stock. Mais trois, il y a probablement une bonne paye sur les véhicules à essence.
Non, mais c'est ça, mais lui, il veut closer tout de suite. Il veut pas que ça traîne pendant 3-4 mois le temps que l'auto arrive. Là.
Puis il essaie de te le rationaliser financièrement. Puis là, il dit, hey, garde, il dit, attends 3-4 ans que ce soit moins cher en coût de fabrication. En attendant, achète-moi mon char électrique. C'est vraiment à essence. Peu, là,
il dit ça à toi?
Il disait, mais pas à moi, parce qu'évidemment, j'ai envoyé un complice. Tu comprends?
Okay. Pour dire, maintenant, le gars, là, il est, ouais.
Paul, c'est rendu, je vais m'acheter des bonbons au dépanneur. Le gars me demande s'il y a une caméra quelque part, tu sais. Non, mais pour vrai, c'est impressionnant parce que ça fait deux fois que je fais l'expérience. Je l'ai faite à la radio il y a plusieurs années et maintenant, et c'est toujours la même chose. Quand tu veux t'acheter un véhicule électrique dans certains concessionnaires, on tente de te vendre autre chose. Probablement qu'il y a des primes différentes ou c'est plus facile ou c'est plus dans ton budget. Mais ce qu'on va déterminer, c'est quelle est la quantité de kilométrage qu'on doit faire pour rentabiliser un véhicule électrique. Parce que oui, on peut le rentabiliser si on l'utilise à bon escient. Mais pour le Québec, ce qui est le fun, c'est qu'on a des barrages hydroélectriques. Fait que nous, on déplace moins de la pollution qu'aux États-Unis. Tu sais, aux États-Unis, tu fais fabriquer un véhicule électrique, tu pollues, tu brûles du gaz pour faire l'électricité, tu pollues, donc tu déplaces la pollution. Ici, l'avantage qu'on a, c'est que vraiment, dans un centre-ville comme Montréal, on va réduire la dépense, mais en plus, ailleurs dans le monde, ce qui est intéressant, c'est qu'on va moins polluer qu'eux, et nous, on va améliorer notre balance commerciale.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut, 7h26.